chronique de Philippe Jorgensen.
La chronique d'aujourd'hui traitera de l'emploi, de nouveau sujet essentiel, travailler plus ou gagner moins. La formulation un peu provocante que je viens d'utiliser pourra surprendre, voire choquer nos auditeurs. En effet, il a surtout été question jusqu'ici en France de travailler moins en gagnant autant, pour la gauche avec les 35 heures, ou de l'autre côté de travailler plus pour gagner plus, selon la célèbre formule de Nicolas Sarkozy. Le problème est que la situation de l'emploi dans notre pays, loin de s'améliorer, a continué à se détériorer avec l'une comme avec l'autre de ces formules. Les crises subies en 2001-2002 avec l'éclatement de la bulle Internet, puis en 2008-2009 la crise des subprimes, et de nouveau depuis l'été 2011 avec la crise des dettes souveraines, y sont certes pour quelque chose. Mais ce qui est préoccupant, c'est la tendance de fond. Notre pays ne parvient plus à créer assez d'emplois pour en proposer à tous. Pire, le potentiel de croissance français serait revenu aujourd'hui à peine au-dessus de 1%, ce qui, compte tenu des progrès de productivité, signifierait une baisse régulière de l'emploi, même une fois la crise terminée. Il faut évidemment sortir de ce piège, mais on ne le pourra pas sans réformes structurelles profondes. Le constat d'abord. Près de 3 millions de chômeurs officiels, presque le double si on prend une définition large. J'ai eu l'occasion de rappeler l'an dernier, dans une chronique précédente sur ce sujet, les différentes manières de décompter les sans-emploi. Selon la définition la plus stricte, c'est-à-dire la catégorie A de la classification officielle qui correspond à des personnes sans aucune activité, il y avait en France métropolitaine 2 874 500 chômeurs exactement fin 2011. Si l'on inclut les nombreuses personnes en sous-activité, et environ 270 000 demandeurs d'emploi dans nos collectivités d'outre-mer, le total, c'est-à-dire les catégories A plus B plus C de la classification, monte à 4,5 millions de chômeurs. Ce chiffre a augmenté d'un demi-million en une seule année et d'un million depuis 5 ans. Encore devrait-on tenir compte également des personnes inscrites à Pôle emploi qui, sans être immédiatement disponibles, souhaiteraient retrouver un emploi à brève échéance. Si enfin on leur ajoute les centaines de milliers de découragés et de radiés, des personnes qui souhaiteraient en réalité travailler, mais ne se présentent même plus à Pôle emploi, n'en attendant ni proposition ni soutien, le total dépasse même, depuis septembre 2011, les 5 millions. C'est-à-dire que 18% de la population active, près d'un Français sur 5, manque d'emploi. Un chiffre beaucoup plus élevé que les 9,5% indiqués par les statistiques officielles d'Eurostat ou du BIT, qui se limite à définition plus étroite. Le tableau qualitatif de ce chômage de masse n'est pas plus réjouissant. Le taux de chômage des jeunes, les moins de 25 ans, est encore beaucoup plus élevé que la moyenne, près de 25%, 40% dans les zones sensibles, où ce niveau très élevé de jeunes sans activité s'enquiste. Il est devenu, comme chacun sait, un problème sociétal. Les femmes sont défavorisées aussi. Elles forment 51% de l'effectif des chômeurs, alors qu'elles sont moins nombreuses que les hommes au travail. Et elles sont plus touchées par le développement du temps partiel contraint, selon le terme officiel, ou pour parler plus familièrement, des petits boulots. Malgré tous les efforts récents et le décalage de l'âge de la retraite, les seniors ne retrouvent guère non plus le chemin de l'emploi. Plus de 600 000 d'entre eux sont au chômage fin 2011, et ce chiffre a augmenté de 16% en un an. Nous restons l'un des pays d'Europe où la proportion de seniors au travail est la plus faible. À 58 ans, un Français sur deux est déjà sans emploi. Et 39% seulement des 55-64 ans sont au travail, contre une moyenne européenne de 50%. Enfin, et surtout, plus cette situation dure, plus le chômage de longue durée s'accroît. Sur les 4,3 millions de chômeurs des catégories A, B et C en métropole, 1 620 000, soit 38%, connaissent cette triste situation depuis plus d'un an. Plus de 400 000 sont au chômage depuis 3 ans et plus, s'enfonçant de plus en plus dans une situation sans issue. Cette situation n'est pas prête de s'améliorer, selon l'UNEDIC, qui prévoit 214 000 chômeurs de plus en 2012. Face à cette situation déplorable, chacun le reconnaîtra, quels sont les remèdes? D'abord, il faut redonner de l'activité, en investissant, en innovant, en reconquérant les parts de marché perdues à l'exportation. J'ai développé ce point dans ma chronique précédente sur la compétitivité de la France. Ensuite, il faut abaisser le coût du travail et donc le rendre plus attractif. Pour les employeurs, en réduisant les charges sociales qui pèsent sur lui. Cela nécessite des recettes en contrepartie qui peuvent provenir de la TVA, de la CSG, de la taxation des transactions financières ou d'une fiscalité environnementale. Il faut aussi rendre le travail plus flexible en levant un certain nombre d'obstacles structurels tenant à la protection de certaines professions, au droit du travail et au cloisonnement des régimes de protection sociale. Il serait très souhaitable dans cette perspective de favoriser des accords compétitivité-emploi dans l'entreprise ou dans la branche. Il faut encore faciliter la mobilité géographique par une bonne politique du logement et professionnelle par une politique efficace de formation permanente, relayant un système d'enseignement de base plus adapté aux possibilités réelles de l'emploi. Je voudrais toutefois m'attarder davantage aujourd'hui sur un aspect important de ce problème, celui de la durée du travail. Deux stratégies opposées ont été tentées dans ce domaine, celle du partage du travail et celle de l'incitation à l'allongement de la durée individuelle du travail par la défiscalisation des heures supplémentaires. Toutes deux ont en grande partie échoué. Le partage du travail repose sur une idée simple, voire simpliste. L'offre d'emploi étant limitée, il serait conforme à la solidarité de la répartir entre un plus grand nombre de travailleurs en réduisant la durée d'activité de ceux qui ont déjà un travail afin de dégager des postes pour des personnes actuellement sans travail. La forme la plus frappante de cette tentative a été la décision sur les 35 heures, mais celle-ci avait été précédée dans les années 90 de nombreuses autres tentatives dans le même esprit, notamment la loi Robien. Le bilan de leurs résultats est controversé. Au moins 300 000 emplois auraient été directement créés à partir de 2000 par la réduction du temps de travail, la RTT, et jusqu'à 800 000 si l'on compte les emplois créés ou maintenus depuis 1993. Mais on doit tenir compte, en sens inverse, d'un double effet dépressif de la baisse d'environ 11% de la durée du travail sans perte de salaire qui a été appliquée. À travers la perte de compétitivité pour les entreprises, à hauteur de la partie laissée à leur charge, et à travers le poids des prélèvements supplémentaires nécessaires pour financer les compensations partielles versées à ces mêmes entreprises, environ 11 milliards d'euros. Pour certains économistes, le poids de ces charges supplémentaires conduit à terme, en freinant l'activité et en réduisant notre compétitivité extérieure, à des pertes d'emplois supérieures aux gains initiaux. La vérité est que le partage du travail ne serait une solution au problème du chômage qu'à des conditions draconiennes qui n'ont jamais été mises en œuvre en France et ne pourront l'être que difficilement. Il faudrait pour cela appliquer réellement l'idée de solidarité entre insiders protégés et outsiders exclus dans notre système actuel et pour cela réduire les horaires et la rémunération des uns pour faire place à l'emploi rémunéré des nouveaux entrants sans surcoût excessif pour les entreprises. On n'a pas osé le faire à l'époque. On n'a, pourrait-on dire, même pas osé le penser. C'est pourtant la même logique qui s'applique aujourd'hui lorsque certains, y compris parmi les organisations syndicales, prônent le recours au chômage partiel et donc à une baisse de rémunération temporaire des salariés, de préférence à des licenciements en période de crise économique. Ces réflexions nouvelles s'expliquent par le fait que l'approche d'un véritable partage des emplois a été appliquée avec succès en Allemagne, par exemple, où le chômage a pu être maintenu à un niveau bien plus bas qu'en France, il est à 6,5 au lieu de 9,5, en dépit de la crise. L'approche inverse, appliquée à partir de 2007, a consisté à encourager ceux qui ont un emploi à travailler davantage en défiscalisant les heures supplémentaires et en les exonérant partiellement de charges sociales. Les travailleurs sont ainsi mieux récompensés de leurs efforts, gagnant du pouvoir d'achat, et les entreprises peuvent plus facilement répondre aux pointes de la demande qui leur est adressée. En contrepartie, outre une perte de recettes substantielle, environ 4,5 milliards d'euros, pour l'État et la Sécurité sociale, perte qu'il faut bien compenser par d'autres prélèvements qui eux-mêmes vont freiner l'activité, on obtient l'effet inverse de celui des politiques de partage du travail, c'est-à-dire qu'au lieu de faire reculer le chômage, les entreprises vont avoir tendance à demander plus à ceux qui sont déjà en poste, retardant le moment de recruter et de former de nouveaux entrants. Cela risque d'accroître encore le fossé entre les insiders et les outsiders dont je parlais tout à l'heure, et c'est malheureusement ce qui s'est passé, puisque, comme je l'ai dit aussi plus haut, notre pays compte 1 million de plus de chômeurs, au sens large, depuis 5 ans. En réalité, l'encouragement aux heures supplémentaires pourrait avoir un effet bénéfique en période de forte croissance et de pénurie de main-d'œuvre. Notre pays est hélas depuis plus de 3 ans, dans la situation inverse, si bien que, de nouveau, le remède appliqué au mauvais moment n'a fait qu'aggraver le problème. Compte tenu de tout ceci, comment se compare aujourd'hui la durée réelle du travail en France avec celle de nos voisins ? Contrairement à ce qu'on croit souvent, les horaires de travail ne sont pas considérablement supérieurs aux nôtres chez nos voisins. C'est paradoxalement, d'ailleurs, en Grèce et en Roumanie qu'ils sont les plus lourds. De fait, la réduction du temps de travail est, sans avoir été imposée par la loi, pratiquée dans la plupart des pays de notre continent, quoiqu'avec plus de flexibilité et de progressivité dans l'application. Pour autant, l'écart n'est pas négligeable. C'est ainsi que les salariés, à temps complet, ont travaillé en moyenne 1904 heures pendant l'année, en 2000, en Allemagne, 1856 heures au Royaume-Uni, autour de 1800 en Italie et en Espagne, contre seulement 1679 en France. Notre pays vient en queue de peloton à égalité avec la Finlande. Si l'on traduit ces chiffres en horaires hebdomadaires, déduction faite de 5 semaines de congés payés, la semaine de travail s'établit à 35h30 en France contre 38h30 en Italie et un peu plus de 40 heures en Allemagne. Il faudrait, certes, tenir compte du fait que les salariés à temps partiel travaillent 2 heures de plus par semaine en France qu'outre-Rhin et que les non-salariés, artisans, professions libérales par exemple, ont dans les deux pays des horaires analogues et beaucoup plus lourds que ceux des salariés. Mais il reste que le temps consacré au travail salarié par nos voisins et concurrents les plus immédiats est supérieur d'un bon dixième au nôtre. Comment ne pas y voir la clé d'un certain nombre de nos déboires économiques ? Au total, il est patent que les politiques successives, peu cohérentes, voire contradictoires, qui ont été suivies en matière d'emploi dans notre pays, ont contribué à un niveau de chômage bien trop élevé, qui pèse lourdement sur notre économie, comme sur le moral des Français. Cette situation n'a, heureusement, rien d'irréversible. Encore faut-il s'attaquer à la racine des problèmes. Il faut pour cela traiter résolument et à la fois la question de l'abaissement des charges pesant sur les salaires, indispensable pour notre compétitivité, comme le sont aussi l'investissement et l'innovation, et la question des réformes structurelles, tout aussi indispensables en termes de formation et de flexibilité, en obtenant qu'un dialogue social rénové permette de traiter enfin sérieusement la question cruciale de l'arbitrage salaire-emploi-temps de travail.